Vous êtes bien à l'écoute de RFI, Radio France Internationale. 60 minutes se sont écoulées depuis le dernier journal et pourtant, il est toujours 2h à Paris.
Mathis Limano.
Bienvenue à vous. Et si vous nous écoutez depuis l'Australie, les États-Unis, le Maroc ou l'Europe, nous venons de passer à l'heure d'hiver. En reculant d'une heure, en Europe justement, les changements d'heure devaient prendre fin en 2021. Et pourtant, ils sont toujours en vigueur. Pierre Benazet nous explique pourquoi en début de journal. Jour de vote au Japon ce dimanche, puis au Venezuela. Vive émotion après l'assassinat d'un opposant politique. Enfin, retour presque à la normale en Guadeloupe. L'île française des Antilles était privée d'électricité depuis vendredi. L'heure d'hiver en question, donc. Ce dimanche matin, la totalité des pays de l'Union européenne vont se réveiller une heure plus tard, puisque l'UE repasse à l'heure d'hiver. Et comme tous les 6 mois, depuis des années, tous les Européens sont perplexes devant leur pendule, car on leur avait promis la fin de ces changements d'heure. En effet, depuis 2021, l'Europe aurait dû les abandonner. Les pays qui devaient garder l'heure d'été auraient dû reculer les aiguilles pour la dernière fois, le 28 mars 2021. Et les pays qui devaient garder l'heure d'hiver auraient dû avancer les aiguilles pour la dernière fois, le 31 octobre 2021. Explication Pierre Benazet.
3 ans plus tard, rien n'a changé. Pourtant, une grande consultation des citoyens avait démontré que 80% d'entre eux ne voulaient plus des changements d'heure. Pourtant, le Parlement européen avait voté en 2019 pour y mettre fin. Pourtant, les économies d'énergie réalisées étaient devenues négligeables. Et malgré tout, les 27 n'y arrivent pas. Et c'est bien des 27 qu'il s'agit, car chaque pays doit choisir. L'UE avait comme seul rôle de coordonner la date. Et c'est là que le bât blesse, parce que personne n'est d'accord, les pays du Nord préfèrent regarder l'heure d'hiver, les pays du Sud l'heure d'été. Et ce n'est même pas une règle générale. Ceci donne une situation inextricable pour la coordination entre des pays qui, pour l'instant, sont très majoritairement calés sur le même fuseau horaire. Résultat, on a glissé le sujet sous le tapis. Au début, on a dit que c'était à cause du Covid, après de la relance, ensuite de l'Ukraine. Et là, pour l'instant, on attend probablement la prochaine crise pour lui mettre sur le dos le maintien du changement d'heure. Résultat, le changement d'heure a débuté en France en 1916. Il a été interrompu à peine 3 décennies. Et aujourd'hui, il ne semble pas en voie de disparition. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Elle était attendue, la riposte israélienne après le tir, le 1er octobre, de 200 missiles sur Israël par l'Iran. L'État hébreu avait juré de faire payer à Téhéran cette attaque. Selon l'armée israélienne, les avions militaires ont mené, la nuit dernière, des frappes précises et ciblées, notamment sur des sites de fabrication de missiles iraniens. Mais a priori, aucun site pétrolier n'a été touché. Idem pour les installations nucléaires, c'est ce qu'indique l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États-Unis préviennent avoir été informés, mais ne pas avoir participé à l'opération. De leur côté, les Iraniens minimisent l'impact des frappes israéliennes. Et c'est tout l'objet de la question posée par Julien Coquelroy à Hasni Abidi. Il est politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Est-ce une posture pour l'Iran de minimiser ses frappes ?
L'hypothèse la plus plausible, donc minimiser les dégâts et avoir un récit qui est opposé au récit israélien, c'est pour dire finalement cette riposte israélienne n'a pas atteint ses objectifs et que le système aérien iranien a très bien fonctionner, ce qui réduit un peu les possibilités ou ce qui réduit l'intention finalement donc de riposter. En même temps, vous savez que c'est important pour les Iraniens, la façon de penser elle est différente de celle des Occidentaux et celle des Israéliens. Pour les Iraniens, il existe d'autres moyens de riposte. Le Hezbollah, on a parlé du Houthi, mais les autres milices. Et ça, c'est un élément qui est capital et qui a aussi pesé dans la décision israélienne et américaine, parce que les Américains craignent aussi pour la sécurité de leurs troupes qui sont en masse dans cette région. Le nouveau système de défense dans le TAD qui a été donné par les Américains aux Israéliens, à mon avis, aussi un élément qui a ramené les Israéliens à plus de retenue.
Le chef de l'ONU, profondément inquiet de l'escalade au Moyen-Orient après les frappes israéliennes en Iran. Pour sa part, le Hezbollah qualifie l'attaque israélienne d'escalade dangereuse. L'organisation chiite affirme aussi que les États-Unis en portent l'entière responsabilité. Les États-Unis, un vrai ami, salue le président israélien qui souligne la coopération entre les deux pays. RFI, il est presque 21h05 à Caracas. Le Venezuela, endeuillé depuis vendredi par la mort de l'opposant politique Edwin Santos. L'opposition à Nicolas Maduro dénonce un assassinat par les forces de l'ordre. Edwin Santos avait été arrêté mercredi par de supposés membres des services de renseignement. Depuis, ses proches étaient sans nouvelles de lui, Alice Campagnol.
C'est déchirant. Voilà comment Maria Corina Machado, la dirigeante de l'opposition vénézuélienne, a réagi vendredi à l'annonce de la mort d'Edwin Santos. Elle a demandé justice pour le père de famille, engagé en politique au sein du parti d'opposition Voluntad Popular, dans l'état d'Apure, au sud-ouest du Venezuela. Son corps sans vie a été retrouvé vendredi et les enquêteurs ont conclu à un accident de moto. Pourtant, le jeune homme avait disparu depuis mercredi. Sa femme avait appelé à l'aide sur les réseaux sociaux. Des témoins affirmaient qu'il avait été emmené de force dans une voiture qui appartiendrait au service de renseignement. L'opposition parle d'un assassinat politique. Edmundo González, l'ex-candidat à l'élection présidentielle, qui revendique la victoire, a exigé que la vérité soit révélée à tous les Vénézuéliens. Mais aujourd'hui, les forces de police ainsi que la justice sont considérées comme subordonnées au pouvoir par des organisations comme Amnesty International. Difficile donc d'attendre une enquête indépendante. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Le Venezuela, je vous le rappelle, où Nicolas Maduro reste au pouvoir malgré les pressions internationales et la victoire revendiquée par l'opposant Edmundo González Urrutia à l'élection présidentielle du 28 juillet. En Géorgie, c'est pour les législatives qu'ont voté ce samedi. Le parti pro-russe au pouvoir et l'opposition pro-européenne revendiquent la victoire. Il reste les bulletins de 30% des bureaux de vote à dépouiller. Pour le moment, la formation pro-russe du rêve géorgien remporte 53% des voix contre 38,28% pour l'opposition. Et puis au Japon, 100 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Les bureaux de vote sont ouverts depuis maintenant 3 heures. On vote pour les législatives, un scrutin en jeu. Selon plusieurs sondages, la majorité absolue s'annonce difficile à obtenir pour le nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba. Son parti, le PLD, au pouvoir quasiment sans discontinuer depuis 1955, est ébranlé par des scandales à répétition, Nicolas Roca.
Nous devons affronter des vents contraire sans précédent. La concession de Shigeru Ishiba est sans appel. Le nouveau Premier ministre voulait asseoir sa légitimité avec un scrutin anticipé. Il espère désormais conserver une courte majorité. Un gigantesque scandale financier continue de plomber la popularité de son camp. En novembre dernier, les médias japonais ont révélé que des millions d'euros issus de levées de fonds ont été retrouvés dans les caisses de certaines factions conservatrices du PLD et non pas dans celles du parti, comme l'exige la loi. Depuis des dizaines de membres, membres du PLD ont été sanctionnés, mais l'image d'une formation politique plaçant ses intérêts au-dessus de ceux de la population continue de ternir son image. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe avait déjà refusé de répondre aux accusations de corruption à son encontre, et puis son assassinat en juillet 2022 avait fait éclater un retentissant scandale autour des liens entre le PLD et la secte Moon, accusée d'escroquer ses fidèles. L'image d'homme juste et honnête du Premier ministre Shigeru Ishiba tranche avec celle de son parti. Mais elle n'est peut-être pas suffisante pour éviter une déception dans les urnes.
Nicolas Roca, en Guadeloupe, après une coupure générale du courant électrique, la situation se rétablit progressivement. 77% de la population est réalimentée en électricité. Selon la préfecture, cette coupure a été provoquée par des salariés grévistes de la centrale qui fournit la quasi-totalité de l'archipel. Une situation compliquée pour les commerçants, comme l'explique Patrick Vial-Collet, joint par Sylvie Coffi. Il est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe.
Des commerçants qui ont des chambres froides qui ne sont plus réfrigérées, des restaurants qui ne peuvent plus ouvrir. On a eu une activité extrêmement perturbée. Et au moment où je vous parle, sur 300 000 foyers, on en a environ 200 000 qui sont rétablis. Donc il y a encore un tiers de la population qui n'a pas d'électricité. C'est très difficile, hein. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Il faut savoir quand même que ce sont des grévistes, à peu près une vingtaine de personnes, qui se sont introduits dans une salle de commandement et qui ont délibérément arrêté les moteurs. Donc un blackout total, je crois que ça n'est jamais arrivé de ma connaissance. Et donc pour redémarrer l'ensemble des outils de production, c'est assez long, puisque depuis plus de 24 heures maintenant, les équipes d'EDF sont à l'œuvre et pour autant n'ont pas réussi encore à alimenter l'ensemble du réseau. Ils essaient de stabiliser, mais des fois, malheureusement, ça coupe.
J'ajoute que le couvre-feu en Guadeloupe est maintenu dans certains secteurs, alors que de nombreux pillages ont eu lieu la nuit dernière. Les forces de l'ordre ont essuyé des tirs à balles réelles. RFI, 2h10 à Paris.